RCF. Bonsoir et bienvenue dans le Casque et l'Enclume, votre rendez-vous culturel hebdomadaire. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Alors, selon le moment de la semaine où vous nous écoutez, puisque c'est une idée qui m'amuse beaucoup, c'est que ça se trouve nous sommes lundi, ça se trouve nous sommes jeudi, parce que cette émission est rediffusée le jeudi. Alors le problème c'est que si vous êtes jeudi, ne pensez pas que cette émission sera rediffusée jeudi prochain, parce que c'est pas vrai, ça sera celle de lundi prochain qui sera rediffusée le jeudi d'après. Bonsoir Aurélie, bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Bonsoir, tu nous as un peu perdus.
Et bien entendu, c'est sans... voilà, il faut penser aussi à toutes les personnes, ces millions de personnes qui nous réécoutent en balado-diffusion, ou qui se baladent le long de la Loire, ou qui yoguent, tout simplement, en écoutant cette émission. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et nous allons vous parler de culture, alors nous allons vous parler de bande dessinée, enfin plus précisément Aurélie va nous parler de la ville d'Orléans via une bande dessinée. Nous allons parler de jeux vidéo et de musique.
Un petit peu.
Un petit peu. Et il y aura une œuvre en débat, à savoir le dernier album du groupe Métronomie qui s'appelle tout simplement Métronomie Forever.
Forever.
Ok, on est beaucoup Aurélie ce soir dans des jeux de voix. on est là-dessus.
Et oui, pourquoi
avec,
pas.
Avec des mouvements d'épaule, il faut imaginer tous ces mouvements, ça swing. On est sur du swing un peu. De toute façon, Aurélie, c'est l'élément swing de cette émission.
Exactement.
Voilà, voilà. Alors, là, les gens se disent, mais où est-ce que tout ça va aller? Eh bien, en tout cas, on va aller jusqu'à 20h, donc une demi-heure ensemble. Et nous allons commencer, comme souvent, parce que vraiment j'adore ça, par de la poésie, un recueil qui s'appelle « Contre la nuit » de Stéphane Bataillon, publié par les éditions Bruno Doucet, au prix de 14 euros. Alors, ce qui est toujours très étonnant, en fait, en découvrant la poésie, c'est que pour l'instant, la plupart du temps, la poésie, les poèmes que j'ai pu lire, sont des poètes décédés, ou en tout cas, qui sont arrivés, entre guillemets, à la fin de leur carrière, où le plus gros de leur carrière est derrière eux, pour, si on veut être un peu plus flatteur. Donc ce sont souvent des recueils, mais des recueils qui sont un peu recomposés, une sorte d'anthologie. Alors, il y a cette manière assez étonnante par les poèmes d'essayer de comprendre un peu un état d'esprit, une façon d'écrire, des thèmes d'une époque. Alors bien sûr, le 19e siècle, quand on pense aux poèmes très classiques, c'est-à-dire qu'on a forcément... L'image du romantisme, par exemple, existe via la poésie pour nous, grâce à Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce recueil donc de Stéphane Bataillon, qui s'appelle « Contre la nuit », on ressent le présent. Et ça, c'est très, très drôle, parce qu'en le lisant, il y a beaucoup de poèmes où je me suis dit voilà, que si on se projette d'ici 20, 30 ans, grâce à ce recueil, on pourrait un peu comprendre un état d'esprit sur notre actualité. Alors, sachant qu'en plus, ce recueil est divisé en différentes sections, alors qu'il détourne un petit peu des choses qui peuvent un peu obséder notre présent. Donc, il y a service de localisation, attaque par force brute, correctif de sécurité, performance de l'appareil, mode hors connexion. Donc, il y a en fait toujours ces thèmes de la connexion, du contact avec ce quotidien qui est très, très présent. Ce quotidien qui est présent par le rapport entre l'individu et son monde, l'individu face aux autres individus, face aux enfants. Enfin, il y a toute une définition, un petit peu. Il y a une façon de dessiner un peu une histoire de famille, avec des textes en prose dont la... Des fois, là aussi, c'est assez étonnant parce qu'on considère souvent que là, il y a une seule façon de mettre en page les poèmes, et en fait, il en existe plusieurs, puisque des fois, ça ressemble vraiment à des textes très très courts, mais qui sont, au niveau de la mise en page, bon, ça pourrait être une sorte de paragraphe aussi. Mmh. Donc il y a ça aussi qui change, c'est-à-dire qui à un moment nous raconte aussi autre chose. Les invectives ici deviennent même des suppliques, une sorte de désespoir un peu de ce présent, et heureusement, il y a donc quand même des notes d'espoir et une façon de rappeler à l'autre qu'on existe vraiment. Je vais vous en lire, je pense peut-être deux là, et un en cours d'émission. Un moment, on ne sait pas, il y a un moment ça va revenir. Alors ce sont des poèmes qui n'ont pas de titre, à part le titre des intersections. Je ne sais pas le nom des fleurs dont tu me demandes le nom. Je n'ai pas dû le demander, personne n'a dû pouvoir répondre. Je ne sais pas le nom des fleurs dont tu me demandes le nom. Alors les apprendre avec toi sur ce chemin bordé de fleurs. Des textes vraiment très courts, très sobres, qui pourraient même parfois faire penser au haïku. C'est-à-dire que cette façon de saisir un instant. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, relier les uns aux autres, on a parfois, ça se rapproche de la description, du dialogue. En fait, il y a une résonance en fait. Les poèmes reliés les uns aux autres trouvent une autre forme. Voici un deuxième. D'accord, on se transformera en licorne, en dragon, en terrible sorcière. D'accord, on refera le monde avant de leur faire croire que c'était pour de faux. Des instantanés que je trouve vraiment très, très beaux quand il y a un langage très direct. Et justement, en parlant de sorcières, de licornes et tout ça, nous allons voyager, partir à l'aventure avec Benjamin, mais pour rentrer dans cette aventure, justement, de la musique.
Alors, je vous cache pas que c'est une grande joie pour moi de vous parler ce soir de quelque chose qui me tient à cœur, je veux dire qui me touche beaucoup encore aujourd'hui. J'ai peu de Madeleine de Proust, mais vraiment le jeu vidéo Skies of Arcadia en fait partie. C'est une de ces petites choses qu'on découvre un jour et qui prend l'air de rien, une place toujours plus grande dans un parcours et un imaginaire personnel. Avant de parler de la musique du jeu, qui a été réédité cette année en coffret CD et vinyle par un label français, je veux prendre le temps de vous parler de Skies of Arcadia, mon jeu vidéo préféré de tous les temps, rien que ça. Il est sorti sur la console Sega Dreamcast le 8 octobre 2000, au Japon, sous le titre Eternal Arcadia, et il est débarqué chez nous en Europe l'année suivante. Il n'est donc pas tout récent, mais ça, c'est pas très grave. C'est un jeu d'aventure dans lequel on incarne Vise, un pirate rebelle qui navigue à bord de son bateau pour détrousser des méchants armés jusqu'aux dents et redistribuer le butin au profit des plus nécessiteux. Jusque-là, rien que de très classique, mais ce Robin des Bois n'est pas de notre monde, son navire est un bateau volant. Il vit sur une planète constituée d'îles qui flottent dans les airs grâce à des cristaux de lune mystérieux contenus dans les rochers. Avec son ami d'enfance Aika, un vrai garçon manqué, il va partir à la découverte de ce monde et rencontrer une jeune femme ingénue tombée de ciel, Fiona. Fina, pardon. Le décor est planté entre les voyages de Gulliver de Jonathan Swift et des adaptations plus tardives comme le film d'animation de Hayao Miyazaki, Le Château dans le Ciel. J'avais parlé il y a quelque temps d'ailleurs de Ni no Kuni, un autre jeu de rôle à la japonaise. Skies of Arcadia entre dans cette catégorie qui se définit très souvent par l'utilisation de magie, peut-être pas forcément de licorne, hein, mais un système de combat original, ici au tour par tour, et un scénario au souffle épique mêlant phases d'exploration de villes et affrontements de monstres dans des « donjons », entre guillemets. Comme souvent, on débloque des personnages au fur et à mesure avant d'affronter le boss final et puis « the end ». Mais qu'est-ce qui rend ce jeu si particulier? Alors il faut aussi resituer le contexte. À l'époque, en 2000, l'éditeur et développeur Sega, vous savez ceux qui ont créé Sonic, le petit hérisson bleu, a besoin d'un titre fort pour la Dreamcast, une console en avance sur son temps mais dont le développement trop coûteux à creuser un déficit énorme qui provoquera à terme la banqueroute de la société, avec en plus l'arrivée d'une concurrente mythique, la PlayStation 2 de Sony. Sega a donc mis beaucoup de moyens dans la création de Skies of Arcadia. D'abord avec la modélisation d'un monde entier en graphisme 3D, permettant la découverte de sites inconnus, cachés aux yeux de tous et à diverses altitudes, mais aussi via l'intégration d'un système de combat naval. L'atout majeur de ce jeu, c'est donc qu'il y a eu les moyens de ses ambitions. Malheureusement, on a tendance à oublier ses immenses qualités juste parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs et donc par Nintendo, Sony et Microsoft. Et parmi ces qualités qu'il s'agit de redécouvrir, il y a l'univers musical d'Arcadia. La bande sonore a été composée par deux artistes peu connus, Yutaka Minobe et Tatsuyuki Maeda, qui ont travaillé pour divers jeux Sega comme Panzer Dragoon ou Sonic Adventure. C'est un peu leur opus magnum, oui, j'ose. 67 morceaux interprétés par un orchestre de 41 musiciens, morceaux qui, mis bout à bout, totalisent plus de 2 heures de musique. On a pu entendre là le thème principal du jeu, mais il faut bien sûr imaginer les différentes partitions créées pour chaque ville, chaque lieu, chaque pays même que le joueur visitera lors de son aventure, et les mélodies qui viennent souligner l'aspect dramatique du scénario pendant les dialogues entre les personnages qui constituent son histoire. Forcément, tout ça, ça s'additionne, et cette BO est une somme de travail. Alors je voudrais être clair à cet instant de la chronique, il m'est impossible d'en parler objectivement. J'ai terminé Skies of Arcadia une dizaine de fois déjà dans ma vie, et ces musiques, je les connais par cœur. J'aurais du mal à vanter tel ou tel mérite, sachant qu'il existe peut-être des bandes originales plus abouties, mais je peux au moins vous affirmer que c'est le haut du panier de cette période charnière de l'industrie vidéoludique, l'an 2000, où tout n'était pas encore qu'une question de chiffres et de risques très calculés, mais aussi une affaire de passion, voire d'audace, y compris chez les décisionnaires des plus hautes sphères. Alors ce serait aussi un peu long, en fait, de faire la liste de toutes les ambiances qu'ont développées Minobe et Maeda. Disons simplement que ces musiques remplissent leur rôle illustratif. Chaque région imaginaire de cette planète battue par les vents et caractérisée par son vide vertigineux prend exemple sur des cultures de notre monde. Désert de sable au mode arabisant, désert de glace tout en tintement, jungle amazonienne avec flûte de pan, vieux continent impérial aux marches martiales, village d'inspiration extrême orientale et bien d'autres. Certains morceaux travaillent sur la mélodie, on pense même parfois entendre des bouts d'aventure de Tintin, c'est assez drôle, et d'autres travaillent davantage sur l'ambiance, les sons, peut-être même un peu sur l'expérimentation même sonore. En fait, il y a une richesse au niveau des timbres, malgré la compression, il a fallu que ça tienne sur un ou deux disques du jeu vidéo, donc forcément ça avait été compressé, mais évidemment Sega a fait ce qui était le mieux possible pour restituer ça sur disque, et on retrouve ce travail là de masterisation sur les disques parus cet été chez Wayo Records, donc le fameux label français spécialisé dans l'édition et la vente de bandes originales de jeux vidéo, dont celle de Ni no Kuni dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour être précis, Skies of Arcadia Eternal Soundtrack est une réédition, puisque la bande originale du jeu était déjà sortie en 2005 au Japon, après que le jeu a été adapté pour la GameCube de Nintendo sous le titre Skies of Arcadia Legends, avec des quêtes supplémentaires, etc. Mais Wayo Records ne s'est pas contenté de faire une copie exacte de cette édition originale. Il y a eu un véritable effort éditorial, d'abord parce que l'image de la pochette est une illustration exclusive par l'artiste officiel du jeu, quelques 20 ans après. Ensuite, parce qu'il y a un petit livret très informatif qui reprend les dessins conceptuels de l'artboard d'origine. Et puis surtout parce qu'un jeune prodige du piano, Ramon van Engelenhoven, a créé de suite pour piano, basé sur les mélodies du jeu et incluse dans le coffret sur un troisième CD inédit. Personnellement, j'en ai des frissons, c'est vraiment une très belle revisite, et l'éditeur a également fait un travail de remasterisation pour la version analogique vinyle, une édition superbe, vraiment très réussie. Et comment ne pas le préciser, à l'occasion de cette sortie, Wayo Records a proposé également une boîte à musique collector reprenant le thème d'introduction que nous avons entendu tout à l'heure. Bon, le prix est assez élevé, ça fait peut-être un peu cher la berceuse, mais quand on aime, vous savez, on ne compte pas. Sans aller jusque-là, faites-moi plaisir. Écoutez cette musique, le coffret CD est à une trentaine d'euros, c'est une invitation au voyage, et si ça peut vous ouvrir à l'expérience du jeu en lui-même, alors vraiment vous n'aurez jamais perdu votre temps.
Merci beaucoup, Benjamin.
Ben, merci à vous.
Mais alors, petite question pratique, complètement pratique, c'est-à-dire que là,
par rapport à ce jeu vidéo. Donc tu disais qu'il avait été réédité. Donc il y a deux possibilités de jouer.
Alors, j'ai parlé de la bande
originale. Ah, c'est la bande originale.
C'est vrai que le jeu, il a été édité, il a aussi été réédité. Alors, pour faire court, il est sorti en 2000 et en 2001, Japon et Europe pour la Dreamcast. Mm-hmm. Et plus tard, en 2004, je crois, ou 2003, il est sorti sur la GameCube de Nintendo. Mais depuis, il n'a jamais été réédité. Et ça fait partie de ces jeux-là qu'on attend, qu'ils soient au moins disponibles de manière téléchargeable ou enfin jouable sans forcément avoir un disque.
Oui, c'est ça, c'est qu'on peut, c'est parce que ça, c'est, enfin, moi j'y connais pas grand chose, mais c'est à dire que on peut jouer à ces jeux. Il y a certains jeux qui sont réédités, mais on peut les télécharger. Quand tu dis télécharger, c'est sur un ordinateur.
Oui, enfin, il y en a certains, c'est sur un ordinateur. Par exemple, il y a Grandia qui a été remasterisé en haute définition, qui est disponible sur Steam. Mais pour Skies of Arcadia, je ne sais pas si c'est une question de droit, mais il n'a jamais été proposé, même sur ce qu'on appelle les stores, c'est-à-dire les boutiques en ligne, où on pourrait jouer, par exemple, PlayStation 4 ou quelque chose comme ça, rejouer à des vieux jeux. Mmh. Et pourtant, Skies of Arcadia est un jeu qui avait fait une sensation en l'an 2000, mais qui a été très vite oublié parce qu'après la PlayStation 2 est arrivée, elle a vraiment tout raflé. Et Sega, c'était la dernière console de Sega, et bon, ils ont mis la clé sous la porte après. C'est devenu juste un développeur, mais plus un consolier.
Très bien, voilà. Très bien. Nous sommes encore ensemble pendant près d'un quart d'heure. Vous êtes dans Le Casque et l'Enclume sur
RCF Loiret à Pithiviers sur le 95.1.
Et je vais justement vous lire un troisième poème donc de Stéphane Bataillon, issu de son recueil Contre la nuit, édité par Bruno Doucet au prix de 14 €. Ne rien attendre, ne rien désirer, saluer chaque caillou par une révérence, qu'elle retrouve leur rang à la cour des cairns, que les points cardinaux ne s'y retrouvent plus.
Voilà. Chaque caillou par une révérence, c'est beaucoup, mais...
Mais c'est beaucoup, mais il y a cette question du temps. Alors c'est ça qui est très beau aussi dans ce recueil, c'est cette façon de digérer le temps, la notion de pause aussi. Et même dans la mise en page, on voit le travail de pause, ça c'est toujours intéressant. Mais alors, voilà, il y a des moments où on fait des pauses, il y a des moments où on se met en mouvement, et c'est le moment dansant de cette émission. Et tout ça, toutes ces transitions sont travaillées, je vous assure. Puisque nous allons parler du dernier album du groupe Métronomie.
Yeah, I hear wedding bells, but then I feel that for your best friend, I'm my best friend. Yeah, I hear wedding bells, but they're not for me. They're for my best friend.
Du morceau Wedding Bells, donc issu du sixième et dernier album pour l'instant de Métronomie, qui s'appelle Métronomie Forever. Alors un groupe qui nous vient du Royaume-Uni, qui alors est connu pour différents morceaux. Il y a The Looks Bay, notamment. Alors j'ai découvert ça, j'avais jamais tilté, mais par exemple sur son album Clara Luciani reprend une chanson en fait qui s'appelle La Baie, donc voilà. Et elle reprend cette composition. Alors au niveau du texte, je ne suis pas sûr. Je vois quand même des différences. Donc dans son album La Grenade. Alors simplement, enfin, on pourrait dire, moi ce qui, par exemple, ce qui me surprend toujours avec Métronomie, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'électro, effectivement, mais en même temps pas complètement. J'adore quand vous êtes dubitatif devant moi. C'est-à-dire que je sens qu'il y a une sorte de doux.
Être surpris par Métronomie, c'est déjà en soi.
C'est déjà surprenant.
C'est qu'ils font un petit peu la même chose. Depuis.
Allez, voilà, voilà, ça va. Alors là, d'un seul coup. Non, mais je suis surpris au sens où. C'est-à-dire que je n'ai pas une grande connaissance de l'électro en général. Et ce que je trouve. Moi, ce que j'aime bien. Alors. On parlera après de l'album, mais globalement dans Métronomie, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a ce dosage entre de l'électro et puis, on va dire de la pop.
La pop,
sens où t'entends quand même les instruments, il y a un travail de voix, Il y a une façon de doser en fait tous ces éléments-là et de les réunir. Bon, après, faut-il encore apprécier que le dosage soit apprécié et appréciable. Ça, c'est un autre point, mais en tout cas, c'est ce dosage-là avec effectivement cette sensation. Alors moi, je connais pas forcément leurs 5 précédents albums, un ou deux au maximum, où on a effectivement cette sensation un peu de répétition. Bon. Après, on en a parlé la dernière fois pour, je ne sais plus pour quel album c'était exactement, mais on reviendra sur cette question de répétition. D'abord, peut-être votre premier sentiment sur cet album, sur... Alors, Benjamin.
Ah bah, je peux commencer. Alors, j'ai noté 2 phrases. C'est sympa, assez fun. Et 2, c'est un peu de la daube aussi.
Voilà. Alors pourquoi c'est un peu de la daube ?
Et ben en fait, je trouve que ben c'est à peu près tout ce qu'il y a de mal dans ce qu'on peut présenter comme de la musique un peu inventive actuelle, c'est-à-dire qu'on reprend quand même des choses qui existent depuis pas mal de temps. C'est sympa, mais ça casse pas des briques non plus. Par exemple, je trouve que on a des éléments de minimal synth, c'est-à-dire de musique synthétique minimale des années 80, et en même temps un peu de Patrick Hernandez, quoi. Enfin, il y a des choses comme ça qui moi ne me parlent pas, parce que c'est vraiment pas, déjà je suis pas ultra fan de pop, mais quand on est dans l'électro-pop, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a tendance à vraiment appuyer en ce moment sur les années 80. Là on est vraiment en plein dedans, enfin je veux dire c'est évident. Et puis bon, parce qu'il y a un petit côté gnangnan quoi pour moi dans Métronomie qui me hérisse le poil au bout de 2 minutes.
Je pense à ça, c'est par rapport à la dernière, voilà, le précédent album dont on a parlé en débat, c'était l'album de Lana Del Rey. On pourra faire des rapprochements, parce que Lana Del Rey, c'est pas les années 80, c'est plutôt les années 70. Mais ce sentiment de répétition, ou de se dire elle réutilise un peu des recettes, il y avait un peu ça quand même.
Oui,
déjà, c'est un peu les points qui, pour Lana Del Rey, ça nous avait plutôt plu. Et là, pour Métronomie, non.
Mais non, parce que je pense qu'il y a une travail sur la texture, mais pas forcément sur la composition. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélie ?
Eh bien, alors, de manière générale, moi je suis quelqu'un qui aime assez bien Métronomie. Toutefois, c'est vrai qu'on peut dire quand même que les quelques titres de cet album majeur sont des titres que l'on pourrait penser être créés il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, même au-delà de la référence aux années 80, finalement, c'est assez classique de ce qu'ils peuvent produire, et il n'y a pas un renouveau de leur approche, il n'y a pas un renouveau de la manière avec laquelle ils ont pensé leur production. En fait, c'est un peu comme si ils avaient juste des nouveaux titres, mais il n'y a rien de plus, quoi. C'est, encore une fois, c'est sympa, mais c'est...
Mais alors, encore une fois, c'est-à-dire que moi, je découvre, voilà, au niveau musical, moi, je découvre tout avec des années de retard. Donc, il y a quelques mois, j'écoutais les précédents albums de Métronomie. Effectivement, entre les précédents et celui-ci, je vois pas une différence incroyable. En même temps, Lana Del Rey.
C'est pareil.
Je n'entends pas. Après, il y a des tonalités. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance. À un moment, on peut se dire, ah, tiens, cet album-là, par rapport à un thème musical ou qu'il y a quelque chose, il y a des environnements, des tonalités un peu différentes, mais la ligne reste toujours la même, quand même.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait... C'est assez paradoxal, ce qu'on dit, parce que c'est vrai que souvent, on demande à ce que des artistes aient quand même un esprit, l'idée qu'ils aient leur propre identité musicale. Donc là, pour le coup, ils respectent très, 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 très bien leur identité musicale. Après, c'est plus le fait que finalement, étant donné les albums précédents et les nombreuses années où ils ont fait plus ou moins la même chose, c'est vrai que c'est plus là où ça pêche, c'est-à-dire que finalement, on pourrait tout à fait se dire que cet album, il arrive trop tard. Enfin, que c'est délicat aujourd'hui de refaire cette même électropop après tout ce qui s'est passé depuis. D'un point de vue musical, c'est presque dommage de rester bloqué. C'est comme si finalement on était resté sur le mode pause et qu'on reprenait et qu'on, enfin voilà.
Alors pour éclaircir un peu ça, alors la première chose aussi, c'est que l'album a beaucoup de chansons. Enfin, c'est un album quand même assez important. Mais alors par exemple,
c'est pour ça que ça fait vraiment anthologie. Enfin,
oui,
Forever aussi, on est sur une sorte de, on a l'impression que c'est leur dernier. C'est
alors,
comme un hommage.
Et quand tu disais, c'est comme s'ils n'avaient pas réalisé ce qui s'était passé avant, si par exemple vous deviez donner un nom de groupe qui aurait pu marquer une sorte de rupture avec Metronomy, enfin vous voyez qu'il y a une date marquante là sur les dernières années, vous donneriez lesquelles là comme ça, quelque chose qui pourrait d'un seul coup vous dire, ah bah oui, non mais là c'est, on a l'impression que Metronomy n'a pas vu que tel son était apparu ou que...
Ouais, je saurais pas dire. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a d'autres groupes électropop qui, ou même tout à fait électro comme Daft Punk, hein, qui ont, au moins on a l'impression qu'ils ont quand même su se réinventer un minimum au fil du temps. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui paraissait comme quelque chose d'un peu branché, voire branchouille, il y a quelques années, maintenant c'est un peu bon, on a compris. On a compris, et puis bon, mais c'est bien, je veux dire, quand une recette marche et quand il y a un public pour ça, et puis enfin voilà, pour
mais c'est ça la question, est-ce qu'il y a encore le public, en fait c'est surtout ça qui me questionne, c'est est-ce que il y a un public pour ça, je sais pas, il faudrait faire des études, enfin voir un peu non mais si j'aimerais vraiment savoir si cet album va marcher.
Eh ben, on en parlera la prochaine fois, à ce moment-là. Non, mais on pourra parler de ça, à ce moment-là. On fera quelque chose autour de ça. Bon, eh bien, alors, voilà. Découvrez Metronomy. Ceux qui ne connaissent pas, eh ben, écoutez les précédents, parce que, ou le dernier, puis vous trouverez un peu la même chose. Voilà. Tout simplement, hein. Ça pose la question de répétition. Et alors, nous allons terminer par Jeanne d'Arc.
Il n'y a vraiment pas de transition.
Mais là, il n'y a pas de transition. Une figure qui est constamment répétée, mais complètement réinventée.
Voilà, c'est une répétition constante sur toi, Orléans,
voilà,
tout à fait.
Et qui est complètement réinventée à chaque fois.
C'est
Aurélie,
bien sûr,
qui va nous parler de bande dessinée.
Donc, une bande dessinée qui a été finalement éditée par Petit à Petit. Petit à Petit, qui est une édition assez récente, finalement, qui a été inaugurée en 1997. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, ils ont développé énormément de titres qui sont en fait des bandes dessinées un peu sous la forme plutôt de la docu-BD. C'est-à-dire que c'est à la fois un mélange entre des planches classiques de bande dessinée et des pages informatives, documentaires, sur ce dont il est question en planche bande dessinée. Donc cette petite édition, Petit à Petit, a été imaginée donc par Olivier Petit, d'où le Petit à Petit. Et il a commencé par éditer un livre autour de Boris Vian, et puis finalement il a souhaité justement... tenter de créer à travers de la bande dessinée le partage de connaissances historiques et littéraires notamment, et donc de faire en sorte de décloisonner et de pouvoir rendre accessible l'histoire et la littérature à tous. Donc la bande dessinée paraissait finalement un très bon moyen pour cela, et il s'est notamment attaqué à l'histoire, mais notamment l'histoire des villes. Donc il en a réalisé plusieurs, il y a Blois, Strasbourg, Angers, et notamment une récente qui est sortie en août 2019 sur Orléans. Donc c'est le tome 1, puisque sachez tout de suite que bientôt il y aura le tome 2, donc qui permet de diviser l'histoire d'Orléans. Donc le tome 1, qui est sorti il y a peu, s'appelle Orléans d'Écarnute à Jeanne d'Arc, et le prochain pour le coup sera à partir de François II à nos jours, en parlant du Festival de Loire notamment. Donc cette bande dessinée qui fait 80 pages et qui est au prix de 16,90€ est en fait divisée en 9 chapitres, donc qui permet de redresser de manière très sommaire, hein. Faut pas aimer le détail, mais de manière très sommaire l'histoire d'Orléans. Donc de la révolte des Carnutes, la victoire de César, les prisonniers de Saint-Aignan, la retraite des Huns, Clovis, les invasions normandes, l'université, Jeanne et le siège d'Orléans. Donc vraiment par chapitre, essayer de découper l'histoire d'Orléans pour essayer de mieux la comprendre, et notamment de comprendre ce qui a fait sa force, ce qui a fait aussi ses échecs, et du coup son histoire. Ce qui est assez instructif, c'est en effet l'idée d'avoir, on commence par une première introduction à chaque chapitre qui nous dresse de manière générale de quoi il va être question, donc sous la forme d'un texte très sommaire, et puis ensuite quelques planches de bande dessinée qui permet vraiment de rentrer dans l'histoire, donc d'avoir vraiment des personnages qui sont représentés, identifiés, donc on entre vraiment dans l'histoire qui fait notre ville, et puis il y a des pauses qui sont très bienvenues, je trouve, où finalement on a la possibilité d'en savoir plus sur la période qui a été expliquée, au travers d'anecdotes, au travers de documents, donc des photographies, des médaillons par exemple qui sont repris. On parle également de l'histoire au travers de tableaux que l'on peut retrouver par exemple au musée d'histoire et d'archéologie d'Orléans ou au musée des Beaux-Arts. On peut retrouver des photographies prises de l'époque, mais bien sûr des choses plus actuelles aussi, parce que l'idée c'est de montrer si quand on parle des cryptes par exemple, on a une photo très actuelle de la crypte telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Donc ces petites pauses finalement documentaires sont très bienvenues, parce qu'elles permettent vraiment de faire des focus sur des parties qui ont pu être évoquées dans les planches bande dessinées, mais de manière illustrée, un peu comme on pouvait l'avoir quand on était jeune sur des encyclopédies. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est que pour nous, la génération des années 80, c'est assez jouissif de retrouver ce type d'ouvrage. Moi je me souviens aussi, mais j'arrive pas à me souvenir du titre, mais on y avait comme ça des hebdomadaires qu'on recevait tous les jours sur les châteaux forts ou sur les Moyen-Âge, qui étaient très bien faits, et après il y avait des petits ateliers à faire, tout ça. Enfin, et en fait on retrouve un peu ce même procédé, et qui finalement fonctionne. Voilà, des années après, ça marche. Donc effectivement, les petites anecdotes, par exemple, sont assez chouettes, parce qu'on apprend au travers de petits objets qui reprennent la forme d'abeilles, le fait que Saint-Aignan... Alors pardon, je prends ma page. Donc c'est des guêpes, pardon. Donc il y a une petite aparté qui s'appelle Pas folle la guêpe, où on voit des petits animaux, des petites abeilles, des petites guêpes trouvées dans un tombeau, et où il nous raconte la légende, par exemple, que Saint-Aignan a invoqué le ciel lors de l'arrivée des Huns avec Attila, le fameux Attila, et qu'il aurait pris des poignées du sable de la Loire, il les a jetées comme ça au travers des murailles, et que ce sable se serait transformé en guêpe. C'est une légende, mais du coup, ce n'est pas expliqué dans la bande dessinée, mais du coup, dans la partie documentaire, on en sait un peu plus, donc c'est plutôt sympa. Et alors moi, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est que cet ouvrage, et je suppose les autres, et malheureusement, je suis navrée, je n'ai pas encore regardé les autres, mais cet ouvrage, en tous les cas, a été le fruit d'une très lourde collaboration entre plein d'acteurs. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il y a certes l'édition Petit à Petit, mais en fait, elle a été réalisée, cette bande dessinée, en partenariat avec Légende BD, que vous connaissez peut-être, qui est cet éditeur dans le centre d'Orléans, et qu'ils ont fait appel à de nombreux scientifiques. Ils ont fait appel, par exemple, à Polytech pour pouvoir obtenir des vues 3D de l'époque d'Orléans à l'époque médiévale. Ils ont fait appel à d'autres figures un peu importantes de la ville, comme notamment Laurent Mazui, qui ne connaît pas Laurent Mazui. Vous pouvez également découvrir que il y a énormément d'acteurs des musées de la ville qui ont été sollicités pour l'histoire, avec les guides conférenciers, les différentes équipes, pour pouvoir nourrir et finalement obtenir de la ressource pour être au plus près de la justesse de l'histoire de la ville. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de très intéressant. C'est pas, on va dire, il faut pas chercher dans cet ouvrage la précision la plus totale. C'est très large, c'est grand public, mais c'est sympa. Voilà.
Merci Aurélie, on restera sur ce bandeau qui pourrait servir de pastille pour la bande dessinée. Merci à tous les deux. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission donc jeudi soir de 20h à 20h30 ou en balade de diffusion comme je disais tout à l'heure sur le site RCF. Bonne soirée, bonne semaine. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas dans mes calculs, nous parlerons... Oh là là, le flou comme ça, nous aurons un invité, nous parlerons...
Eh bien, des amis,
exactement. Bonne soirée, bonne semaine et à lundi, si ça vous dit.